Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome to Comme d'Archi Podcast Season 5.
Saison 5, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Duncan Lévis. Bonjour Duncan.
Oui, bonjour, c'est un connaissé.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte et à la tête de Scape Architecture. Alors, je vais commencer par vous poser des questions sur le goût, mais pas le goût en tant qu'esthétique pure, mais en rapport avec les plaisirs de la table. Est-ce que vous les aimez? Quels sont vos mets préférés? Avez-vous un souvenir gustatif à partager?
Oui, la question, c'est toujours lié, pas tout à fait juste sur le goût au niveau de nourriture, mais c'est surtout sur les gens qui vous êtes avec. Et bien sûr, à le moment de l'année, tout est lié. J'adore de tomates l'été, j'adore de cèpes automne. Voilà, j'adore de fish and chips à Londres. C'est tout lié sur un moment, un temps. Et voilà, c'est ça qui nous touche et c'est ça qui rend le goût merveilleux.
Ouais, un souvenir gustatif?
Oui, un truc qui est un peu étrange parce que comme j'arrivais en France, pour moi, la nourriture française, c'était une découverte assez extraordinaire. Et j'avais un ami à cette époque-là, Jacques Andelat, architecte, qui m'a invité pour participer dans une petite dégustation dans le Land. Et on est arrivé dans une très grande salle avec une grosse table et on était 60 personnes. Assez extraordinaire. Et il avait une grosse assiette. Et sur l'assiette, il avait une très grosse nappe, mais complètement dépliée. On ne voyait presque pas l'assiette. Et tout d'un coup, il y a un serveur qui entre dans la salle et qui pose plusieurs grandes assiettes avec de nourriture. C'était des oiseaux cuits. Ça s'appelle le ortolan. Je ne savais pas du tout à cette époque qu'est-ce que c'était. Et tout d'un coup, on commence à. La salle commence à bouger, les gens commencent à interroger. Et tout d'un coup, il avait des gens qui ont posé de grosses serviettes blanches, blanches, bien plat. Ils sont posés sur la tête. Et là, moi, j'ai regardé juste au bout de mon bout de tissu pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et après, les gens, avec des mains, ils allaient servir ce petit oiseau. Il se mit dans la bouche. Tu ne voyais rien du tout. Et il commence à faire trop de bruit, comme c'est la nourriture en train d'être avalée par chacun. Et tout d'un coup, après, les gens se finissent, ils prennent une serviette, ils se descendent dans le visage et essuient de bouche. Quoi. Ah, c'est incroyable. C'était incroyable. Un moment, c'est un truc qui est interdit. Mais bon, voilà. Dans le monde, certaines choses qui sont interdites sont très, très... Voilà, c'est un moment très, très curieux, mais voilà, c'est un moment qui est resté dans ma tête pour toujours. Quoi.
Vous avez quand même peut-être des mets préférés? Non, c'est vraiment le contexte.
Non, c'est des gens. C'est
d'accord.
Des gens. C'est des gens qui m'a poussé, qui m'a... Voilà, ma belle-mère, à l'automne, elle fait, on allait cueillir des cèpes dans la forêt, et elle fait un cèpe farci, c'est juste merveilleux, quoi. C'est merveilleux, juste simple, efficace. Et bien sûr, le champignon, pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que c'est le signe de vie, c'est le signe de notre biodiversité. dans le monde entier. Voilà, ce petit partage avec des gens, c'est ça qui lui donne vraiment le goût de vie.
Bon, alors vous êtes originaire de Grande-Bretagne, je pense que les auditeurs l'ont déjà compris.
Oui.
Et vous avez fait vos études là-bas, vous allez nous en reparler. Après avoir vécu au Japon et en Allemagne, vous vous installez à Bordeaux et fondez votre agence. Depuis, vous œuvrez sur de grands projets et vous intervenez essentiellement sur des programmes d'habitat, de sport et d'enseignement. Mais je crois que vous avez aussi d'autres types de projets, avec toujours un attachement au contexte et à la réversibilité. Alors que l'on en parle beaucoup en ce moment, vous semblez avoir été attaché à cette valeur de la réversibilité depuis longtemps.
Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Tout à fait.
Et en outre, ce qui me semble très pertinent dans votre approche, c'est votre volonté de rapprocher à nouveau l'homme et son environnement. Et c'est aussi très dans l'air du temps actuellement, mais on sent chez vous que c'est un mouvement qui agit en profondeur et en dehors des phénomènes de mode. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'on parle beaucoup de réinventer, mais bon, c'est beaucoup de la communication.
Oui.
On va commencer par le début, votre parcours et votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture et quelles ont été vos études.
Ma jeunesse, on est baladé avec ma famille un peu partout en Europe. On avait une vie extrêmement nomadique dans les années 60. Je parle bien de partir en caravane et en camping en Espagne. L'Espagne, c'était un premier découvreur en Europe à cette époque-là. Et après, j'en ai fait mes études à Londres. J'avais fait un premier diplôme sur le design. Et c'était sur les objets d'intérieur, les objets de design, industrial design. Et après, je vais aller plus loin. Et les gens qui me disent, voilà, à Londres, d'aller au Royal College of Art à Londres, c'est quand même l'excellence avec des gens qui, en passage, qui sont absolument incroyables. Je postulais pour ça, pour ce diplôme de Royal College et j'ai eu. J'ai passé trois ans à le Royal College of Art à Londres, où bien sûr, on n'est pas dans une école liée sur une discipline. On est complètement, il est tout, quoi. Il est absolument tout, quoi. Et c'est ça qui était fantastique. Et voilà, je crois beaucoup de ça, de faire pousser des ailes et voler de plus loin et de plus disperse qu'on peut faire. Et
Vous avez ouvert le champ à 360 degrés.
Le champ, c'était incroyable. Il y avait des design, des automotive design et des céramiques. Voilà, il avait des sculpteurs et il avait l'art pur parce que voilà, on est dans une école de Hockney. Je rappelle, dans la cantine, on avait des tableaux de Hockney, mais je pense que c'était pas le vrai parce qu'eux, ils sont peut-être cachés quelque part dans un musée. Mais voilà, il avait cette ambiance-là, cette ouverture, cet esprit qui est absolument magnifique. Et dans cette époque-là, dans notre travail, on était beaucoup liés sur l'Italie, parce qu'on faisait interior design. Et j'ai eu des profs assez extraordinaires dans le mouvement de Memphis, Ettore Sottsass, et ces braves bonhommes comme ça, qui étaient absolument incroyables. C'était un moment super intéressant. Mais en même temps que c'était un peu dur. C'était un peu compétitif.
Beaucoup de travail.
Beaucoup de travail. Le travail, ça ne me gêne pas, mais c'est extrêmement compétitif dans ce langage d'éducation qui me gênait un peu. Et souvent, voilà, comme je vous avais dit, je l'ai dans différents modes, tout ça. Je ne voulais pas juste rester dans
votre précaré.
Voilà, exactement. C'était un moment très curieux, mais j'ai rencontré, comme je vous ai dit, des gens formidables. Et à mon degree show, parce qu'on s'appelle ça the degree show, parce que c'est tout le monde qui fait un show à la même temps, à la fin de l'année. Ça, c'est extraordinaire. Dans mon show, j'avais un personnage qui m'a venu sur mon travail. Il m'a parlé. C'était un monsieur qui s'appelle Deepak Kausho, un Indien. Et il dit, Duncan, je vais donner un coup de fil plus tard. Très bien. Et à cette époque-là, j'ai rencontré un ami parce que je voulais quitter le monde européen et aller ailleurs, quoi. le plus loin que possible, et surtout pas dans un pays anglo-saxon. Et j'ai eu la possibilité d'inscrire pour une bourse à Japon. Et voilà. Et en même temps, Deepak, il me téléphone, il me dit « Duncan, je voudrais que tu viennes à Belfast ». Je dis « Belfast ?» Qu'est-ce que je fais à Belfast ?» C'était la période un peu chaud, quoi. Il me dit bah, « Je suis prof à l'Université d'Ulster et j'ai envie de créer un nouvel enseignement sur tout ce qui est design, interior design et architecture. » Ouais, je dis ouais, merci beaucoup Deepak. Il me dit viens, donne un coup d'œil avant que tu dis oui ou non. Et voilà, so j'ai pris un petit avion et j'arrive à Belfast. C'était une période extrêmement chaude.
Vous êtes pas fait.
Mais c'était lâcher. Très délicat. Une journée, j'étais à l'université et le supermarché en face, c'est complètement
saccagé.
C'était complètement saccagé par la bombe et tout ça. Mais je passais un très bon moment, très très bon moment, très fort dans mon parcours. Et après le première deux semaines, j'ai eu un coup de fil de cette bourse japonaise, Monbusho, qui me dit « Duncan, vous êtes pris pour faire une interview ». J'ai dit bah, « Ok so, ». J'étais à Londres, j'ai fait mes interviews et quelques jours après, ils ont dit bah, « Voilà, vous avez votre place pour aller au Japon ». J'ai dit bah, « Voilà, peut-être je vais rester ici à Belfast parce que j'étais en train de passer un moment assez extraordinaire ». Et les gens au Japon, ils ont dit « Ok, on garde ton place pour un an ». Voilà, c'est ce qui s'est passé. Suite à la première année en prof, j'étais 23 ans, c'est très jeune. Je partais en Asie.
Pour faire quoi alors?
Ben, j'étais intrigué sur l'inconnu, d'aller loin, dans un endroit où je ne connaissais pas la langue et tout ça. Et finalement, j'arrivais dans le même temps qu'un groupe de gens. Toute culture qui est venue de partout dans le monde et on est arrivé dans une grosse maison. On était 60 personnes de partout dans le monde.
C'était une auberge espagnole, une méga auberge
c'était
espagnole.
C'était incroyable. C'était
au Japon.
C'était incroyable. Et croyez-moi, comme on parle de gastronomie, voilà, on est partagé la gastronomie entre nous pendant le mois et le mois et c'était formidable. Et voilà, so je restais au Japon, on partageait de temps avec mes amis. Toujours été un peu un mauvais élève, un peu rebelle et tout ça. Et on est avec deux amis, on a acheté un moto et on a décidé plutôt que faire le cours en japonais, qu'on avait l'obligation de faire, on a acheté une caméra, un moto et on est parti. Et à la fin de chaque mois, on est rentré à Osaka pour toucher notre argent pour repartir. Quoi. Et j'ai pris le japonais comme ça, la langue japonaise avec mes amis. Qui, voilà, deux amis qui étaient architectes, Ogman Soli de Norvège, avec Xavier Guillaume. Et voilà, je restais à Japon un bout de temps, et après un an et demi, le boss se termine. J'ai dit, bah, j'ai envie de rester ici un peu. J'avais l'opportunité de contacter des gens qui m'accueillaient à bras ouverts, qui n'est pas évident de ces époques-là, parce que le Japon. Voilà, ils sont très, très tribunes. Ils se protègent entre eux. Ils sont fascinés par des étrangers, mais en même temps, voilà.
Ils se méfient.
Ils se méfient un tout petit peu. Mais bon, moi aussi, je me méfie un tout petit peu aussi. j'ai eu l'opportunité quand même, grâce peut-être des gens que je connais comme Maxime de Sossas, de travailler avec un designer japonais. Qui s'appelle Shiro Karamata. Et à cette époque-là, il était en train de, j'étais dans les ateliers, il était en train de sortir une chaise qui s'appelle Miss Blanche. C'est une chaise assez extraordinaire, c'est complètement transparente, il y a une essence incroyable, et dedans, il y a une incrustation de rose. Sur les formes de rose en suspension dans la chaise. Voilà, c'était des choses assez extraordinaires, liées vachement sur le groupe de Memphis. Et après ça, j'ai eu la possibilité de croiser un autre groupe de architectes, parce que à cette époque-là, je n'avais pas mon diplôme d'architecture ou quoi que ce soit. Et je croisais un groupe qui s'appelle Team Zoo. Et Team Zoo, c'est un très grand groupement de amis qui travaillent partout au Japon à ces époques-là. Et chaque télé il avait le nom d'un animal. C'est pour ça qu'ils s'appellent Team Zoo. Et j'arrive à Tokyo, dans ce petit quartier avec des gratte-ciel, tout ça. Il y avait une petite maison. Il y a des gens dans le jardin en train de baigner la terre au travers la fenêtre. Mais qu'est-ce que c'est ça, lui? Complètement barjot et tout ça. Et j'ai tapé sur la porte et j'ai entré. Et ils étaient en train de faire un projet à Hokkaido. Et ils étaient en train de faire dans toute la pièce une grosse tasse de terre, là où ils commencent à positionner le projet. C'est absolument incroyable.
Avec la terre, ils faisaient tout le relief.
Tout le relief et tout. C'est assez extraordinaire. Et voilà, j'ai travaillé avec eux pendant 3-4 mois. Voilà, et après.
Et en fait, c'est là où l'histoire architecturale a commencé?
Je ne peux pas dire que c'est là, mais je pense que c'est vraiment comment ça m'a touché quand je rentrais en France et j'ai rencontré, grâce à un ami, un architecte qui s'appelle Jacques Andelat.
Qui est connu.
Qui est extrêmement connu, qui est un monsieur absolument formidable. Et j'étais intrigué dans le dessin que Jacques faisait et la manière qu'il regardait les choses. D'en haut, à distance, pour doucement rétracter dans l'espace et fabriquer l'architecture. Et je trouve, pour moi qui étais plus habitué avec des petites choses très intimes à le corps, je trouve ça fascinant. Et c'est ça qui m'a ouvert quelques portes. Et j'ai commencé à acheter des livres, vu de la terre, de le ciel. Mais c'est bien avant Monsieur Bertrand qui sortait son gros livre. Et voilà, doucement, j'ai entré dans ce monde-là. Et Jacques, il m'a dit, Duncan, je veux bien que tu viennes travailler avec moi. J'ai dit, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. J'ai dit, j'ai toujours un peu broncolé avec de langue. Comment je peux exprimer? Ils disent, j'ai vu le dessin que vous avez fait, c'est bien assez. Exprime avec la manière que tu sais faire, pas peut-être avec le mot. On a passé pas mal d'années ensemble, extrêmement proche.
Et vous avez passé votre diplôme d'archi alors?
Non. Et à cette époque-là, il avait Jean-Philippe Vassal,
oui.
Ma femme, Brigitte Canet-Louis, qui est venue, une de Niger, une de Tahiti et moi de Japon. Et on est venu chez Jacques et on a commencé à travailler sur un concours d'architecture. C'était le Musée Rodin et c'était une expérience absolument incroyable. Et voilà, on a fait plusieurs projets ensemble, très touchants, absolument formidables, avec de vrais échanges, des échanges qui sont rares.
Oui. Mais c'était une période propice à ça aussi.
C'était assez extraordinaire. Oui. On allait vraiment
sur le fond
et pas d'ambiguïté, pas de cerises sur le gâteau. C'était vraiment, même quand peut-être à la fin du gâteau, on avait 1000 cerises sur le gâteau. C'est ça qui était vachement bien.
Oui.
Et suite de ça, on est tous arrêtés chez Jacques et chacun a trouvé son chemin. Jean-Philippe, un Lacaton, c'est des amis très proches, il m'a invité de travailler avec eux pour faire deux, trois concours ensemble, là, qui était super intéressant parce que c'était lié sur le Japon. Voilà, j'étais content de mettre mon petit patte d'observation sur le terrain au Japon avec Jean-Philippe Hanan à ces époques-là. Et voilà, on a fait deux, trois projets assez plein de rêves.
Mm-hmm.
Et c'était super. Et après là, voilà, j'avais pas mon diplôme,
oui.
Tout ça, c'est compliqué.
En France, pour endosser une responsabilité, il faut être diplômé. Ouais.
Tout à fait. J'étais envie d'aller à Paris. Et Brigitte a eu la possibilité de suivre un projet pour Francis Solaire. C'est de Quiberonly à cette époque-là. Je l'ai monté avec Brigitte. Et voilà, je suis tombé avec d'autres amis, architectes comme Françoise Roche, comme Edouard François et tout ça. Voilà, on avait fait plein de choses ensemble. C'est des moments juste incroyables. Mais difficile. C'est chacun a son caractère et voilà, on est, après un certain temps, chacune est allée dans son manière de faire, de regarder l'architecture. Et moi, je n'avais pas mon diplôme.
Toujours pas.
Toujours pas. So, j'étais un peu un Spoutnik en train de faire l'architecture et vraiment participer très profondément dans ce monde que je commence à dire de plus en plus. Et j'étais aussi, je croisais pas mal de monde à cette époque-là. Je suis un ami de Jean Nouvel. J'étais un ami très proche de Francis Seigneur qui m'a expliqué que lui, il a eu un diplôme où tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Et je dis, ça m'intéresse parce qu'aller à l'école, vraiment, non.
Oui.
Non, ça, c'est assez de tout ça.
C'est contre nature.
Voilà, j'aime bien apprendre les choses
sur le terrain.
En première.
Oui, donc vous avez eu une reconnaissance du diplôme. Voilà. Sur référence.
Voilà, exactement. Mmh. Cette époque-là, je travaillais sur le château de l'Aise à Montpellier, mise en scène, mise en forme. On avait un autre projet de GTO-MO à Juppy. J'en ai fait mon dossier et j'ai fait mon application. Ils ont dit, oui, pourquoi pas. Je dis, c'est formidable. C'est formidable. J'ai contacté tous les amis. Et on a fait une très, très grosse fête et ça s'est permis d'aller un peu plus loin dans le métier. Quoi.
D'accord. Mais là, vous étiez toujours à Paris parce que j'ai vu que.
Non, après un certain moment.
Bordeaux, c'est l'ASCO qui vous a fait venir à Bordeaux?
Non. La chose qui s'est passée après. À Paris. Je continue à aller à Paris pendant un an, mais on a pris la décision de quitter Paris parce qu'on a eu des enfants, tout naturellement.
Voilà.
Et voilà, on a voulu un peu plus d'espace et tout ça. Et j'arrivais à Angers. Et voilà, on avait une petite maison à Angers et je continue à aller à Paris. Et c'est une époque assez extraordinaire parce que voilà, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient intéressés qu'est-ce qu'on allait faire dans les années 90 sur cette notion de, pour moi, de vraie nature, de nature humaine, de nature écologique, de nature tout court. Tout d'un coup, j'arrive à Angers et j'ai resté avec tous mes associés. C'est jamais facile, mais ça se fait. Et j'étais contacté par un monsieur à Mulhouse qui disent, Duncan, je suis un ami de Jean Nouvel. On est un projet qu'on veut faire à Mulhouse, qui s'appelle le City Manifest. Et on voudrait bien que vous nous participiez avec nous, avec Shigeru Ban, avec Jean-Philippe et Anne, la carte en façade, excusez-moi, et Mathieu Podin. Est-ce que ça peut vous intéresser? Why not? Et on y va. So, je me trouvais à Angers. J'ai gagné un concours avec un ami que j'ai croisé au Japon, qui est Norwegian, qui m'a invité à faire un concours. On a gagné. So, on était en train de faire à Angers, travailler en Espagne, en Norvège, et avec le groupe autour de Jean sur le City Manifest, qui était vraiment un projet très, très important pour moi. C'était chacune y faisait ses trucs, mais elle avait une vraie notion de partage humain qui était juste génial, quoi. Et avec un client derrière qui vous a poussé de faire tout ce que vous voulez, selon que vous êtes resté, bien sûr, dans une fourchette de prix et tout ça, ça c'est clair, mais c'est rare. Ouais. C'est très, très rare.
Bah là, on dit toujours que la qualité d'un projet vient beaucoup du client.
Ouais. Pierre, il nous avait soutien et voilà, on est resté dans le prix et voilà, on est travaillé beaucoup sur ces projets. J'étais associé avec deux jeunes gens, Bloch et Vépotin. Et voilà, on est allé jusqu'au bout de ce projet-là qui, pour moi, c'était très, très important de déjà commencer à réfléchir, appuyer sur un existant. Voir les qualités humaines dans l'existant et comment on peut ça amplifier ça, caresser ça, améliorer et faire un nouvel projet architectural avec ces ingrédients. C'est ce qu'on a fait.
Vous étiez assez en avance sur
oui, c'était
ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, en fait.
Oui, je ne sais pas est-ce que je suis j'étais en avance, mais voilà.
Quand vous aviez ces intuitions-là.
Voilà, des intuitions. On va parler un peu de notion de éducation dans nos écoles, mais cette notion de intuition au travers de notre vie, c'est absolument fondamental, quoi.
Mmh, mmh. Alors, avant qu'on aborde vos projets,
oui.
J'ai une question que je pose toujours à ce moment-là, enfin quand j'y pense, mais là j'y pense.
Ouais.
L'une de mes questions donc récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez quand vous êtes sorti de l'école ?
Oui, je crois que déjà la chose que je vous avais dit, comme j'ai sorti de l'école...
Je la repose quand même.
Je savais pas du tout où j'étais en train d'aller, quoi. Mais je restais très curieux et très engagé avec mon entourage, avec moi-même.
Donc ça allait forcément aboutir sur quelque chose.
Je pense comme tu crois et comme tu es honnête avec cette croyance, voilà, tu peux aller...
Ça a été votre moteur.
Aller jusqu'au bout, je pense que c'est peut-être un peu grand pour dire ça. Chaque projet, il est... C'est jamais parfait, quoi. Mais j'aime bien les choses pas parfaites. J'aime bien les choses qui sont pas finies. J'aime bien les choses où les gens ils peuvent se réapproprier eux-mêmes, quoi.
L'inattendu.
J'aimais bien dans les espaces où les gens, voilà, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. So, comme j'ai sorti d'école, non, j'avais des choses à dire dans mon croyance, dans mon passé. Mais non, je n'ai pas sorti en disant, voilà, c'était ça le but, quoi.
Ouais.
Du tout. C'est pour ça aussi, je pense, dans nos écoles d'architecture, peut-être il y a des gens qui nous traversent, qui ne veulent jamais faire d'architecture après dans sa vie. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est le moment de ce change. Le monde et la vie, c'est une grosse palette de couleurs et chacun...
Ce sont des études quand même exceptionnelles. Quand on a la chance de les faire,
oui.
C'est déjà énorme.
Oui, mais il faut vouloir, quoi. Il faut vraiment aller et faire et prendre un risque, quoi, et être très curieux, quoi. C'est ça le métier, rester curieux.
Alors justement, vos projets.
J'en ai un grand projet à ce présent moment. Je suis en train de faire une nouvelle association avec Hans Lefebvre à Bordeaux. Hans a travaillé avec moi quelques années avant et on a fait 2-3 projets ensemble. Ça, c'était très bien. Et là, aujourd'hui, on veut réunir notre force, notre engagement. Et voilà, c'est quelque chose qui est en train de naître.
D'accord.
Justement.
Alors, ce grand projet-là dont vous parlez, que vous développez ensemble, c'est lequel ?
Mais, c'est pas lié sur un projet propre, c'est juste un projet d'une association là-dessus. Et voilà, on a une ou deux projets en cours, qui est en cours de développement.
Alors, on a fait un petit répertoire de vos références, parce qu'on appelle ça comme ça.
Oui.
Vous avez Lasco 4.
Oui.
Avec Kassonmann. On les a déjà reçus dans Comme d'Archi. Donc, on a déjà parlé de ce projet.
Oui.
Vous pouvez nous en parler un peu ? Vous avez dû bien vous entendre.
Oui,
et
oui,
pour
oui.
eux, ça devait être une porte.
Oui, c'était assez intriguant. J'étais contacté par Snowetta pour être associé en tant qu'architecte sur le projet. À cette époque-là, je ne cache pas, je ne savais pas qui était Snowetta. C'est un peu une de mes grandes défauts. Je reste très dur de le métier.
Oui, je sais que vous avez une certaine humilité, mais c'est bien.
Un petit peu. Et
je trouve ça je trouve ça assez marrant de voir un architecte anglais. Enfin, en tout cas, vous avez toujours votre nationalité anglaise. Vous êtes anglais.
Oui, tout à fait. Et j'ai une nationalité française aussi.
Qui a participé à la grande époque de l'architecture française et qui ignore quelque part cette référence d'agence. Je trouve ça plutôt sympathique.
Voilà, je reste humble dans tout ça, mais je restais ferme de mes objectifs, quoi.
Donc, en fait, ils vous ont sollicité.
Voilà, so Snowetta m'a contacté et dit, est-ce que vous êtes intéressé de participer avec eux sur cette concours-là? Voilà, il avait Jean Nouvel aussi dans le concours. Je dis oui, c'est formidable.
C'est stimulant.
C'est intéressant. Je ne savais pas trop qu'est-ce que c'était le sujet. Et après, j'ai appris qu'est-ce que c'était le sujet. Je ne cache pas, ça me gênait un peu. Ça m'a gêné un peu parce que c'était pour faire un copie de la grotte de l'origine. Et ce, c'est
pour préserver les vrais.
C'est pour préserver les vrais parce qu'on sait, voilà, avec de pousser des champignons et tout ça avec des visiteurs, voilà, c'est un gros problème. Après, il avait un deuxième Lascaux qui était construit dans les années fin des années 60, qui devient trop petite et tout ça. Et voilà, il avait ce gros projet pour faire un centre pour tous ces tableaux qui sont juste absolument inouïs. Absolument inouï. Ça, c'est à la même temps, moi, que je dors de dessin. Moi, je dors le travail sur le dessin. Tout dessin dans un projet, ça commence avec le contexte, l'environnement. Ça, c'est le fond de toute la palette. Et après, le projet, doucement, il se conçoit, il se construit, il se valorise et on amène les gens dedans. Quoi. C'est ça, c'est la naissance d'un projet. Et là, sur Lascaux, voilà, on est quand même des gens. Et on ne sait même pas aujourd'hui pourquoi. Si ça allait donc de noir complet pour dessiner des animaux absolument extraordinaires sur le paroi de la roche. Et la chose que j'ai découvert au travail sur le projet, c'est qu'ils utilisaient même le contour et la topographie de la roche pour aider le dessin. C'est absolument incroyable. Et aussi, ils ont superimposé le dessin qui font qu'avec certaines lumières, tu as une animation. On est en train de parler de 16 millions d'années avant, quoi. Tu vois.
Mais voilà, c'est pour ça que quand on dit qu'on réinvente, c'est
C'est fou, quoi.
Oui,
et une autre chose que j'ai découvert, il n'avait pas juste de dessins sur le paroi, mais beaucoup de gravures. Beaucoup de gravures absolument incroyables. So, voilà, on est entré dans ce monde et tu vois, on est en train de parler de tableaux qui sont... Tu peux même pas dire c'est ancien. C'est tellement vieux. C'est d'ordre le temps, quoi. Et là, aujourd'hui, on est notre téléphone. Combien de images on bascule au travers de notre téléphone? C'est phénoménal. Il y a une forme de disproportion de choses. Et doucement, c'est comment ça appelle, voilà, cette chose humaine que je dors, la pâte de construction, de se voir, de communication au travers de main. C'est pas juste ici... dans la tête ou dans le téléphone. Quoi. Voilà, so on est fait ce projet ensemble, on est gagné. Et voilà, et c'est un ouvrage que cela a marché très bien. Et beaucoup de visiteurs ouvrir sur un public beaucoup plus grand. Sur des gens, ils découvrent des choses qu'ils ne pouvaient pas découvrir en même temps. Et exactement à ce moment-là, juste avant Lascaux, j'ai gagné un concours dans le nord de France, à Revin. C'est un lycée. Et,
alors là aussi, on en a déjà parlé parce qu'on a reçu Manal Rajdi il y a pas longtemps.
Ah, Manal, super. Manal, c'était un élève de moi. Il était à Nantes et il est venu travailler chez moi pendant pas mal d'années. Et après, à le début, quand il a eu son diplôme, voilà, on a travaillé pas mal ensemble. Et voilà, Revin, c'est arrivé que je contactais Manal. À cette époque, c'est une agence qui s'appelle Off Architecture, avec une autre personne, Tanguy Vermier, qui est un monsieur assez extraordinaire. Et voilà, on a fait ce projet avec un autre architecte qui était associé, Jean-Desjeux Santo, à Bordeaux. Et on était complètement outsider. On était loin de le site. Il n'y avait que de local dessus. Et moi, j'étais mandataire et on a gagné. On a gagné. Et c'était...
C'est un très beau projet. Hein.
Ben, c'était aussi cette notion de reconquête d'un territoire, c'est de faire une autre manière de penser des choses liées sur un territoire.
Il y avait une partie réhabilitation, si ma mémoire est bonne.
Voilà.
Et puis une extension qui épouse
le terrain complètement.
Le terrain là. Qui rentre. Qui...
Ouais, la chose qui se passait, c'était Revin, c'était une ville sinistrée avec la fermeture de plusieurs usines. Et dans le lycée, ils avaient vu que voilà, ils commencent à avoir une incidence beaucoup sur les élèves. Ils étaient dans un bâtiment existant terrible, avec des amiantes et tout ça. Et c'était un lycée qui était construit dans les années 70. Et ce n'était pas fait pour là. C'était pour faire en Algérie. Et ils ont pris le projet, ils ont juste scotché ça sur le colline de Ravin. Ils ont dit, bah voilà, ça c'est assez touchant, quoi, de tendre ce type de choses, surtout dans un lieu de passage de savoir, quoi. C'est fondamental, c'est, pour moi, c'est pour ça qu'on est sur Terre, quand même. Et voilà, on a gagné ce projet en disant très simplement, voilà, à tout moment, tout se lève, il doit avoir une vue absolument splendide sur la vallée de la Meuse, quoi. Et c'est ce qu'on a fait, tout simplement. Et il avait un autre élément dans le programme. Il avait un lieu de commune de tous les élèves, de 70 mètres carrés, pour 800 élèves. Et on a dit, c'est pas possible, quoi. Comment tu veux des gens qui se partagent un moment ensemble? Et voilà, so on est fabriqué un fond de paysage interne et on est donné un nouvel espace de 2800 mètres carrés, un lieu de partage.
Donc, du coup, c'est un projet qui a de l'intérieur une vue formidable sur le paysage,
voilà.
Et qui de l'extérieur s'intègre.
Se confond voilà.
Sur un versant vallonné.
Exactement, voilà. Ouais. Et c'est un projet qui a pris beaucoup d'années de sortir des terres parce qu'on était en site occupé.
Oui.
Vous imaginez, de Bordeaux, rendez-vous chantier, c'était le lundi matin.
Oui. Il fait froid là-bas, en plus.
Très froid. Il y avait beaucoup d'accouchements sauvages dans nos entours. Très compliqué. Mais voilà, c'était pas un projet simple parce qu'on arrivait que des entreprises, peut-être n'avaient pas tout à fait de mêmes ambitions, de même savoir faire qu'on voulait, quoi. Mais on est quand même fait. On est quand même fait et ça.
Oui, c'est un projet très ambitieux et la maîtrise d'ouvrage vous a suivi.
Oui, il nous avait suivi jusqu'au bout. Voilà, on était extrêmement heureuse, encore plus heureuse pour apprendre que la directrice, qui a changé récemment, il y a une augmentation de la qualité de tout le baccalauréat et tout ça. Ça veut dire le utile. L'utile, ouais. Il est en train de fonctionner, quoi.
Ouais.
Ce n'est pas juste une intégration d'un projet architectural, c'est le tout.
Il est livré depuis combien de temps?
Il était livré en 2016, et après l'année de parfait achèvement, c'est 2017. Mais les élèves, ils ont entré en 2016.
Oui, donc il y a déjà un bon recul.
Oui, il y a un bon recul, et voilà, c'est marche. Et aussi, les élèves de d'autres pays, maintenant, ils font des liens sur Internet et tout ça, c'est... Ouais, ça l'aide à fonctionner pas trop mal.
Oui, d'ailleurs, on a l'impression de voir un projet qui pourrait être soumis aujourd'hui en termes de, comment dirais-je, d'osmose avec le paysage, tous ces paradigmes dont on parle beaucoup.
Mmh. Ouais, ouais.
Ouais. Alors, après, vous avez le groupe scolaire de Cornebarrieux.
Ouais. Ça, c'est un projet c'était l'époque qu'Hans travaillait avec moi. Et voilà, on avait fait une réponse pour cette concours à Toulouse, à Cornebarrieux. C'est une dame assez extraordinaire qui s'appelle Madame Fraisse, qui nous avait soutenu jusqu'au bout. Comme on avait dit tout à l'heure, il faut un très bon client pour quelque chose qui sort de valeur, de la terre qu'on habite aujourd'hui, quoi. C'est très, très important. Et la première fois qu'on a visité le site, c'était un Chamblay. C'était l'été, il faisait 42 dehors. Ils disent, voilà, il va être un nouvel groupe scolaire là. Je dis, mais c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. C'est trop un peu cynique, quoi, c'est dur, quoi, c'est un problème de climat, là. J'étais toujours touché par le cinéaste Topovsky et la manière qu'il avait conçu et construit une scène, une forêt, 20 ans avant le tournage d'une de ce film, qui est absolument incroyable. On a dit, bah voilà, il faut prendre les choses un peu en l'air. Il faut dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on a envie de faire avant de construire un groupe scolaire? Et voilà, on a pris la décision de fabriquer une forêt. Et dans cette forêt, on se conçoit et on amène les gens dedans avec un peu de confort, avec un peu de délicatesse, avec des couleurs de saison qui changent toute l'année. Et voilà, on a construit ce projet qui a pris beaucoup d'années. Et on a une baisse de température autour du bâtiment considérable. Et je trouve ça plutôt bon signe que les jeunes gens ils peuvent apprendre des choses dans l'ombre d'un arbre.
Ouais.
Voilà, tout simplement. Mm-hmm. C'est pas très compliqué. Il faut être un peu naïf, un peu primitif dans tout ce monde.
Garder le bon sens.
Voilà, c'est un petit bon sens. Et voilà, comme en Afrique, on voit tous les groupes scolaires sur les arbres. C'est pour une raison, quoi. Mieux appuyer sur de bonnes raisons que de raisons factives. Voilà.
Oui, ou de, comment dirais-je, matériel pur. Non,
pur, ouais.
Enfin, mais matériel c'est... dans le sens commercial du terme, quoi.
Ouais, ouais. Mais là, je parlais avec... on a mangé un très bon pizza juste au là. C'était très bien avec ma fille, qui travaille ici à Paris, Megan. Et... on a parlé de cette notion un peu de... On est dans une époque un peu de indoor generation.
Oui.
Je ne sais pas si vous avez entendu ça. On a parlé de ça. Et c'est vrai, on a la tendance d'être plus en plus enfermés dans nous-mêmes, dans nos endroits. On a des téléphones qui... Voilà,
il y a une peur. Il y a une peur. Ouais. Ça, c'est...
Moi, j'encourage sincèrement, de choses que j'essaie de faire, c'est plutôt de pousser vers une outdoor generation plutôt qu'une indoor generation.
Oui, mais en même temps, ça se comprend. Enfin, ils sont tellement affolés par ce qui risque d'arriver.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Donc, ils se replient naturellement, en fait.
Oui, ouais, mais... Ça, je suis d'accord avec cette point de vue-là, mais à la même temps, comme on voit tout dans l'architecture aujourd'hui, toutes les contraintes juridiques avec des réglementations qui demandent de faire exactement ça, fermer, isoler. Ça donne une forme de coupure de notre environnement que je trouve, c'est pour ça, on est dans cet état d'aujourd'hui, quoi. Et il faut reverser une tendance, et vite, quoi.
Mm.
On parle, là, on n'est pas en train de parler d'écologie. C'est plus loin que ça, c'est la nature humaine, avec le rapport avec la nature de notre environnement, dans tout contexte.
Justement, ce que je trouve très intéressant dans votre approche, c'est que vous parlez de nature, certes, mais vous êtes plus large, c'est l'environnement.
Oui, c'est l'environnement, et bien sûr, qu'est-ce que c'est qui fabrique de villes ? C'est des gens, quoi, c'est la nature humaine qui fabrique de villes. So, il ne faut pas, un peu comme je vous avais dit au College of Art, de mettre chacune dans son case, et après ça avance comme ça. Non, il faut laisser des cases ouvertes, il faut descendre des cases pour être un peu plus ample ouais, dans notre regard par rapport le monde là où on est, quoi, et surtout le monde de futur.
Bien sûr, d'autant que on se rend compte enfin qu'on n'est pas enfermé dans de l'histoire.
Ouais, tout à fait.
On sort de cette tout à l'heure, on a une autre interview, et c'est ce qu'on disait aussi. On sort d'une vision très historicisante,
ouais,
et où on se rend compte qu'on est dans un mouvement permanent, ce qui peut être très angoissant, mais en même temps, c'est formidable.
Oui,
parce que ce magma ou cette possibilité de changer, et quand on retient le meilleur, c'est formidable.
Oui, oui, mais c'est, moi, je garde un espoir super positif. Moi, je regarde mes élèves, ils sont plein de désir, plein de bonheur. Mais il ne faut pas...
Vous
enseignez
où ?
Hein, moi, je recène... j'avais recène Berlin, Barcelone, certaines époques. Beaucoup ici en France, différentes écoles en France. Aujourd'hui, je suis à Marseille. J'adore cette ville. C'est absolument incroyable.
C'est incroyable.
Voir un mec sur un bus, torse nu, avec de grosses poils, c'est Marseille. Ça, j'adore cette ville. C'est assez extraordinaire. Mais non, mais la chose que je vois, c'est... dans la réglementation qui est liée sur la manière qu'on est poussé de faire l'architecture, pour moi, c'est en complètement contresens de la manière qu'on doit faire.
Mais ce qui est fou, c'est que vous êtes... Beaucoup d'architectes le disent, vous êtes la majorité, elle dit.
Oui, oui, oui.
Et même plus que la majorité, c'est presque unanime. Mais c'est comme si la réglementation inventait et justifiait des nouveaux métiers.
Ouais.
C'est pas un peu ça aussi ?
Oui, c'est un peu ça, mais... est-ce que les gens y comprennent, pour être en bonne santé, il faut de lumière. So, fabriquer des logements aujourd'hui avec tellement peu de lumière qui entre avec des fenêtres, mais c'est ni queue ni tête, quoi. C'est contresens. Moi, je travaille beaucoup avec le rapport entre le paysage en intimité avec le bâtiment et son usage, parce que pourquoi? C'est parce que, tout simplement, voilà, c'est mes soeurs de refroidir l'air autour du bâtiment, quoi. Le projet Aniel, que je livrais un an et demi avant. Voilà, il avait des contraintes. J'aime bien les contraintes. Mais de vraies contraintes. Et travailler avec de vraies contraintes pour faire une réponse humainement acceptable pour des gens qui vont habiter dedans, quoi. Et voilà, j'ai tout un façade où je fabriquais une pièce qui n'était pas dans le programme, qui n'était pas dans le projet. Une pièce, presque 7000 mètres cubes. C'est une pièce, 7000 mètres cubes. C'est un grand truc quand même.
Ah oui.
Hein?
Oui.
Hein? Et ça permet de faire plein de choses. Ça permet pour les gens de discuter ensemble. C'est formidable, les gens discutent ensemble dans une résidence.
C'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui.
Hein? Oui. C'est formidable. Tu ouvres les fenêtres, parce que les logements sont traversants. L'air, il circule sur le bâtiment, il monte sur cet endroit absolument merveilleux où tout le monde se partage et c'est refroidi le logement.
Bien sûr.
On est trop chaud, j'ai un autre balcon gigantesque au nord, tu sors le barbecue à l'été, comme il fait vraiment trop chaud. Voilà, c'est des choses, entre guillemets, un peu simplistes, un peu débiles, mais c'est marche.
Hein. Mais ça marche.
Ça marche. Et j'ai des gens qui me contactent, qui habitent là, et c'est juste que je suis vachement contente. Niel, il avait toute cette notion après Covid, que les gens, ils voulaient quitter la ville. Ils veulent chercher des espaces. Les balcons sont trop petits en ville. Voilà, on est étouffé. Et six familles, qui habitaient les campagnes, qui se rivent d'un âge, l'entretien et tout ça, plus compliqué.
Ouais.
Et là, ils sont réentrés en ville, ils habitent dans le projet d'Eco. Ça veut dire que quelque part, ils se retrouvent dans ces moyens de bord, un endroit comme ils l'avaient ailleurs. Quoi. C'est bien de réinverser les tendances. Quoi.
Oui, et puis, enfin, j'ai vu des images de vos projets, il y a un côté un peu atelier aussi.
Oui, bien sûr. Ouais.
C'est... Où le végétal a une place importante.
Oui, oui. C'est une place importante, comme il y a des places pour des gens qui sont très importants, quand il y a des places pour le béton qui sont très importants, et le menuisier, c'est un atout. Souvent, les gens, ils aiment bien mettre une forme de tampon sur le front, disant
l'étiquette.
Voilà. Oh, l'étiquette partout.
Je déteste ça, je le dis tout le temps.
Et voilà, juste laisser la porte ouverte pour penser d'autres choses et pour les gens, quoi. Et c'est ce que j'essaie de faire avec mes petites moyens d'abord.
Je vous souhaite de continuer.
Oui, j'essaie de continuer, c'est pas évident. Mais c'est comme ça.
Vous avez une équipe ou...
Oui, on est une très bonne équipe à Bordeaux, avec des gens qui sont travaillent pour moi pour longue date. Mais la chose que je fais assez systématiquement de le projet, j'allais chercher des amis pour manger ensemble, pour boire ensemble et pour faire des projets ensemble. Voilà, c'est absolument fondamental.
La convivialité, le partage.
Le partage, c'est absolument essentiel. Comme on a envie de faire pour des gens et comme le partage sont bons, le projet il est bon. Voilà, ça, c'est juste une notion de partage qui me motive beaucoup. Ça nous anime l'agence beaucoup. Quelqu'un comme Claude Figaro, botaniste, qui vient, plein de monde, absolument partout, qui viennent, et pas souvent nos architectes, quoi. Et c'est ça, c'est pas négatif par rapport aux choses que j'ai envie de dire, mais c'est laisser la porte ouverte pour toutes et tous. pour Vienne et partager des moments ensemble. Ça, c'est des côtés rose, glitter et tout ça. Voilà, mais c'est un métier qui est costaud. C'est costaud. Mmh. Je cache pas. De temps en temps, on a de doutes. Je peux pas partager cette lettre avec vous, mais je vais vous laisser. C'est sur Mulhouse, j'ai reçu une lettre quelques années avant de quelqu'un qui habite dans une des maisons que j'ai conçues. Et c'est juste un plaisir. C'est un plaisir que quelqu'un qui habite dans un bâtiment que j'ai conçu...
Elle vous remercie.
Plus que ça. Mmh. Elle décrit sa vie de la manière que moi, j'ai envie de vivre. Quoi.
C'est formidable.
Et ça, c'est... Tu vois, dans le métier, c'est très rare qu'on ait des gens qui disent merci et tout ça.
Et oui, en général, c'est... Non. Ah, les architectes.
Ah, ouais. On n'est pas...
C'est pareil en Angleterre, vous avez...
En Angleterre, je ne sais pas trop. J'ai conçu 2-3 projets en Norvège et je travaillais aussi en Espagne. Mais je n'ai pas eu d'opportunité de travailler en Grande-Bretagne. Sauf que l'année dernière, j'étais invité pour faire une grande conférence à Londres, à The Barbican, qui est vachement bien passée. Parce que dans les îles britanniques... Cette notion d'écologie, ils étaient très liés sur le conservatisme pur.
Oui, mais le roi Charles est très là-dessus, intransigeant.
Et
là
j'étais invité par quelqu'un qui a visité le projet à Bordeaux. Et il dit donc, je veux absolument que tu parles de tout ça. Je fais, et là, aujourd'hui, j'ai des gens qui me contactent.
Alors, c'est passionnant de discuter avec vous. Je crois que je pourrais rester toute la journée. Mais on est malheureusement pris par le temps.
Oui, oui, oui.
On va faire... en général, je termine sur une question sociétale, enfin, plusieurs questions sociétales.
Mm-hmm.
C'est le conseil à donner... qu'on pourrait donner aux étudiants, aux jeunes esprits qui arrivent à l'école. Vous parliez de curiosité déjà tout à l'heure.
Moi, je pense qu'il ne faut pas donner de leçons.
Oui.
Ça, c'est la première chose.
À l'école.
Il ne faut pas donner de leçons à l'école. Pour moi, c'est indispensable.
Il faut ouvrir les esprits, c'est ça?
C'est ouvrir les esprits, montrer que d'être curieux, ce n'est pas négatif, c'est plutôt positif. Et de bien comprendre, c'est pour ça, chaque fois que je travaille dans les écoles, souvent, la plupart du temps, on sort de l'école, on allait sur le terrain, on marche. Marseille, on s'appelle ça le bivouac, on marche, on allait d'eau, on reste une nuit, deux nuits ensemble, on fait des campings, on se discute, on montre que, voilà, je suis là de comprendre et d'apprendre autant de choses de eux que moi, je peux faire des transmissions de mon savoir.
Mais est-ce que ce n'est pas un peu utopique?
Beaucoup de gens le disent, mais je pense
c'est
absolument...
C'est une question.
Non, c'est des gens qui essaient de donner des étiquettes de des gens. Voilà,
Non, mais c'est vrai que...
Moi, je trouve que c'est vachement indispensable que voilà, tu te montres dans une école qui tu es. Mmh. Tu essaies d'extraire de gens en face qui sont extrêmement jeunes. Et il ne faut pas prendre ça comme une chose que, voilà, il faut y le prendre à tout prix. Chacun, il s'extrait de son propre histoire. Voilà. Et la chose qui me gêne beaucoup dans les institutions aujourd'hui, on est dans une institution qui est une école qui est spécialisée et on se donne des outils que je pense qu'ils sont mal adaptés.
Oui, non mais...
Mal adaptés. Ça, tout le monde ça, allait dans une sens et je trouve qu'il faut chacun, il s'exprime, il se trouve un terrain d'entente avec lui-même. Et ça, c'est absolument indispensable.
Oui, mais vous aviez cette force-là en vous-même quand vous étiez jeune.
Oui.
C'est pas donné à tout le monde.
Non, je veux pas dire c'est donné à tout le monde, mais il faut donner le bénéfice de doute de tout le monde. C'est pas évident. J'ai eu une petite expérience dans une école spéciale ici à Paris. J'ai entraîné parler de 25 ans avant. C'était un petit truc que j'avais avec deux jeunes gens à l'école qui étaient de Maroc, qui étaient paumés, mais vraiment paumés. Et on est battus et on est discuté. Et à la fin de la journée, ils ont sorti quelque chose qui, pour tout le monde autour, n'était pas grand-chose. Mais pour eux et pour moi, c'était une montagne.
Oui.
Une montagne.
Mais vous avez
et voilà, chacun est son niveau. Et comme je dis, les gens qui traversent une école, comme une école archi, ils ne sont peut-être pas forcément faire ce métier pour toute sa vie. Quoi. Les choses se changent. So, voilà, on est là de forger le caractère des gens et les ambitions des gens. C'est ce que j'essaie de faire. J'aime bien travailler avec la main. C'est mon truc anglo-saxon. J'aime bien fabriquer des choses sur un chantier, sur le site, mais aussi avec des élèves. J'aime bien, comme on veut, dessiner quelque chose qu'on dessine. Et dessine quelque chose avec une main qui tremble, c'est fait avec des dessins, mais magnifique. Voilà, on était en train de parler tout au début de cette notion de table.
Oui.
Voilà, ça, c'est un petit dessin que je ne veux pas vous montrer. Tout l'autre lecteur, mais ça, c'est des choses que j'adore. On est de table, où on amène les amis, qui est tout rangé.
Mmh.
Après, il est le moment de repas.
Mmh.
Et à la fin du repas, tout est en désordre.
Mmh.
Et c'est formidable. C'est vers ce sens-là que j'ai envie de mener avec mes élèves et avec l'architecture. Peut-être une architecture pas mignon, pas une architecture finie. Peut-être il faut laisser cette porte ouverte pour des gens. Quoi. Et c'est ça qui me pousse. Hein. De partager ça.
Ce sera votre mot de la fin ?
Oui. En tout cas, mais merci beaucoup.
C'est très ouais. Ouvert et c'était passionnant, en tout cas, de passer cette petite heure avec vous, vraiment.
Ouais, merci pour l'invitation. Je suis pas très bavard, mais
vous
voilà,
voyez,
j'aime bien dire des choses que je crois. Et avec de gens qui sont en face de moi, comme je vois dans nos yeux, eux aussi, ils croient en beaucoup de choses. Ça, voilà, c'est rendre les choses beaucoup plus faciles.
Je suis émue.
Super.
Merci beaucoup, Duncan, d'être venu dans Comme d'Archie. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas le numéro en anglais.
D'accord.
Au revoir.
Merci.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.